voix nue. Cette semaine, Zoé Sfez rencontre Alain Touraine. Ce soir, vivre sa vie ou essayer de comprendre celle des autres.
Bonsoir Alain Touraine.
Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup de nous accueillir ici dans
c'est
votre
un
appartement.
Grand plaisir.
Votre appartement de la rue Falguière. Alors, on entend la vie parce que cet appartement surplombe Paris.
Disons qu'il voit un peu la rive gauche et puis le centre de Paris disparaît à la vue et on voit réapparaître, je dirais, 18e, 19e, 20e, c'est-à-dire le vieux Paris disparaît et on voit réapparaître derrière les bobos.
On voit réapparaître derrière les bobos et on entend les bruits de la ville avec leur douceur et leur, parfois leurs agacements. En tout cas, on prévient nos auditeurs. Vous êtes sociologue, Alain Touraine. Vous êtes l'un des sociologues français les plus importants. Vous êtes parmi ceux qui ont contribué à poser les bases de cette discipline qui n'existait pas vraiment quand vous avez terminé vos études.
La sociologie est née en grande partie en France et en Allemagne, mais au moment avant la Première Guerre. Et ensuite, à cause en partie de la guerre où la jeune génération a été tuée, il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'après la guerre où elle a redémarré. Quand j'étais, moi, étudiant, elle n'avait pas d'existence, sinon un demi-certificat de la licence de philosophie, que d'ailleurs je n'ai pas faite. J'avais une autre formation qui était l'histoire, ce qui est assez exceptionnel. Et donc, ensuite, ça a démarré. Mais la licence de sociologie n'a été créée qu'en, je crois, en 1955 par Raymond Aron.
Et justement, on va évidemment parler de tout ça. On va parler de votre sociologie, à vous, et de ce premier livre qui est paru justement en 1955, je crois, votre tout premier ouvrage. C'est L'évolution du travail ouvrier aux usines Renault. Je vais essayer de citer comme ça quelques-uns de vos livres les plus importants, mais c'est très difficile de résumer une œuvre qui a plus d'un demi-siècle. L'évolution du travail ouvrier aux usines Renault, c'était 55. Le mouvement de mai ou le communisme utopique en 68. La société post-industrielle, naissance d'une société, c'était en 69. Un désir d'histoire en 77. Mort d'une gauche en 79. Critique de la modernité en 92. Un livre qui fait écho à votre dernier ouvrage. Nous, sujet humain, en 2015. Votre tout dernier livre, il est paru au Seuil cet automne 2018. Il s'appelle La défense de la modernité. La modernité, l'histoire, le sujet, c'est des concepts très forts dans votre sociologie. Mais avant d'explorer avec vous à la fois les concepts que vous avez développés tout au long de votre vie, j'ai envie de savoir comment vous vous sentez, vous, pour essayer d'évoquer votre histoire, votre vie, puisque c'est l'exercice de la voix nue. C'est votre vie, c'est votre histoire, l'histoire avec un petit h. C'est finalement un exercice auquel vous êtes peu habitué.
Il faut dire la vérité, c'est que je suis très vieux. À l'instant où vous me parlez, je suis très vieux. Mais que voulez-vous ? On fait avec.
Comment est-ce que le sociologue que vous êtes envisage ou essaye de regarder sa propre vie ?
J'essaye de ne pas la regarder d'abord. Et je dirais qu'il faut faire un choix. Ou vous voulez vivre votre vie, ou vous voulez comprendre la vie des autres, la vie d'une société ou de plusieurs sociétés. Il faut choisir, il faut se sacrifier, y compris matériellement d'ailleurs. Je ne peux pas, moi, m'occuper beaucoup de moi, et je dois faire simplement attention à ne pas vivre éloigné des gens que je suis censé essayer de comprendre. Par exemple, j'ai passé beaucoup de temps en Amérique latine et j'ai toujours tenu en Amérique latine, en particulier au Chili, mais dans bien d'autres pays aussi, il faut toujours faire attention à ne pas vivre comme le professeur qui vient des pays du Nord et qui gagne bien sa vie, et j'ai toujours veillé à être payé comme un professeur local.
Très important, sinon vous passiez à côté d'eux. J'ai envie qu'on parle de ce dernier livre, et notamment de ces livres, ceux qui datent de ces 3-4 dernières années. Pour vous, c'est vos livres les plus importants, en tout cas les premiers importants depuis très longtemps. On va essayer de retracer au cours de ces 5 entretiens votre vie et votre vie intellectuelle. Mais j'ai l'impression que justement, à cet âge-là, vous dites que vous êtes très vieux, vous avez une grande fertilité comme ça.
Oui, et c'est une conséquence directe de ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que c'est ma vie ? Je suis donc né en 1925. Ma grande impression de jeunesse, c'est la capitulation de la France, c'est la honte de la France, en juin 1940. Et puis, les années au lycée Louis-Léon, où j'étais enfermé pour ce qu'on appelle une canne, la préparation de l'école normale. Et puis la sortie de la canne, c'est-à-dire l'entrée à l'école normale, au moment de la libération de Paris. Ça, c'était le
1945.
Le sauvetage à la fois du pays où je vis et de moi-même. Mais c'est un souvenir triste. Le souvenir de mon enfance, de ma jeunesse, de mon adolescence, c'est un souvenir triste.
Pourquoi donc, Alain Touraine ?
Parce que c'était juste avant la guerre ou pendant la guerre, et que, après la capitulation, la France, massivement, et en particulier à Paris, ville occupée, c'est l'absence d'existence collective, l'absence de pensée, l'absence de distraction aussi. Je n'ai pas eu de vacances ni de soir parce qu'il y avait le couvre-feu. Le seul bon souvenir, si je peux dire, un soir, ma mère m'avait emmené à la Comédie Française. Et en revenant, elle m'a dit, c'était pas tard les spectacles, elle m'a dit, regarde bien le ciel, parce qu'aujourd'hui tu vois toutes les étoiles, il n'y avait pas de voiture. Et par conséquent, tu vois le ciel et les étoiles. Ensuite, quand tu seras plus grand et dans ta vie, tu ne les verras plus.
Parce que c'est ça, vous êtes dans une famille relativement aisée, une famille de médecins, je crois.
Oui, je suis dans une famille de médecins assez scientifiques, médecins hospitaliers. Mon père, mon frère, mon beau-frère, mon fils et d'autres dans la famille ont été des chefs de service à la paix, comme on dit, à l'assistance publique à Paris. Et surtout, mon père et mon frère étaient dans une collectivité importante qui était à l'hôpital Saint-Louis, qui est un magnifique hôpital qui date d'Henri IV, la dermatologie et maladies vénériennes, qui était une des grandes spécialités. Et les trois grands dermatologues et syphilographes français habitaient d'ailleurs à 20 mètres les uns des autres, en bas du boulevard Raspail.
Parce que vous avez grandi boulevard Raspail.
Oui, en bas.
Et vous avez vécu cette capitulation de la France en 1940 comme quelque chose de terrible, aussi parce qu'elle a été suivie, je crois, d'une espèce de chute sociale aussi de votre famille, comme
oui.
Ça a été le cas pour bien des familles à cette époque.
Mon père, qui avait fait la guerre de 14, dans la région de Verdun, a éteint précisément, et à qui est arrivé des choses d'ailleurs assez impressionnantes, parce qu'en sortant des lignes françaises, en montant, comme on disait, à l'assaut, il avait ramassé les blessés français, mais aussi les blessés allemands, ce qui était un geste qui n'était pas tellement courant. Et quand les Allemands ont réattaqué, mon père a été fait prisonnier avec les blessés, et nous sommes dans une autre époque, mais l'officier allemand qui l'a fait prisonnier lui a dit « Vous avez sauvé des blessés allemands, je vous renvoie dans les lignes françaises avec les blessés français. » On a l'impression de vivre au Moyen-Âge. Il a reçu quelques engueulades de gens qui étaient un peu étroits d'esprit, mais aussi la Croix de Guerre et la Légion d'honneur à cette époque-là.
Mais que s'est-il passé alors pour cette famille, la vôtre ?
Bah, vous savez, c'est très simple. Tout d'un coup, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de voiture. Pendant toute la guerre, on n'avait pas de voiture. Et on avait les plus grandes difficultés pour manger, on n'avait aucun chauffage. Je me rappelle que le 1er janvier, quelqu'un a dit « Oh, c'est formidable, il fait 10 degrés dans l'appartement. » Et la première année de la guerre, de l'occupation plus exactement, il faisait très froid. Donc, des conditions de vie matérielles dures, parce que nous n'avions pas de lien avec la campagne, et par conséquent, pas de poulet qui arrivait, ou deux qui arrivaient de la campagne. Donc, la vie matérielle était très dure, et puis, je répète, aucun divertissement. Heureusement, mon père, qui était donc un médecin très scientifique, mais il avait une magnifique bibliothèque. Et j'ai encore un ou deux volumes, c'est tous les autres, je ne sais pas où ils sont passés, de Proust, de La Recherche, édition originale, parce que mon père était abonné. Et donc il y avait, je ne sais pas, disons 10 000 ou plus de 10 000 livres chez mon père.
Et donc vous, vous avez lu pendant la guerre?
J'ai beaucoup lu. À vrai dire, honnêtement, je préfère écrire. J'écris assez facilement et je lis difficilement. On peut en tirer des conséquences sur ce que je fais. Je suis un peu trop tourné vers ce que je pense, moi.
Et vous le dites.
Et je le dis.
D'ailleurs, je crois que vous avez commencé à écrire très tôt.
Oh ben, écrire, c'est un grand mot. Non, j'étais pour parler comme mon ami Roland Barthes, un écrivain. C'est-à-dire, il y a des gens qui écrivent, mais sans qualité littéraire. Mais j'ai lu beaucoup de choses qui m'ont beaucoup intéressé. Y compris, d'ailleurs, une chose qui est restée très dans ma tête. Enfin, il y a deux choses qui sont restées dans ma tête. J'avais trouvé plusieurs livres sur les Saint-Simoniens, qui étaient des gens très étonnants au XIXe siècle, qui ont été les premiers grands chefs d'entreprise en France, qui avaient créé une sorte de religion. Donc un mélange de création de la grande industrie, le type qui a fait le canal de Suez, le type qui a créé le PLM, le type qui a créé je ne sais plus quelle compagnie bancaire à Lyon, etc. C'était des Saint-Simoniens.
Voilà. Vous dites qu'il y a deux choses qui vous ont marqué, les Saint-Simoniens, et je crois, vous me dites que vous avez toujours été, finalement, et c'est votre formation première, fasciné par l'histoire, je crois.
À vrai dire, oui et non, parce que j'ai été fasciné par la géographie. Et ensuite, je me suis dit, mais histoire et géographie, c'est resté dans la tradition des écoles françaises, des lycées français. Histoire et géographie, et des gens très importants avaient toujours dit, géographie et histoire, ça va ensemble. L'histoire, c'est la géographie dans le temps, et les autres disaient, la géographie, c'est l'histoire dans l'espace. Ce qui est profondément vrai, et j'ai été élevé, ça c'est vraiment les gens à l'égard de qui j'ai une grande reconnaissance, les gens qui m'ont élevé, c'était ce qu'on a appelé l'école française d'histoire, qu'on appelait l'école des annales. J'ai lu, quand j'étais étudiant, mais jeune, j'ai lu Marc Bloch, qui était un grand historien du Moyen-Âge, mais qui est mort fusillé en 43 parce qu'il était résistant. Et puis Lucien Febvre, qui avait fait un livre splendide sur Rabelais et le problème de l'incroyance au XVIe siècle. Et puis Brodel, évidemment, la Méditerranée à l'époque de Philippe II. Et puis bien d'autres aussi. Mais disons, ce qu'on appelait la longue durée, comme disait Brodel, tous ces gens-là m'ont énormément impressionné, influencé, et je dirais même, honnêtement, aidé intellectuellement à me former, puisque c'était très médiocre, la formation que j'ai reçue au lycée.
Vous avez dit que vous vous ennuyiez beaucoup.
Beaucoup, parce qu'il y a deux choses que je ne supporte pas. Il y en a une, vous pouvez vous en apercevoir, j'aime bien parler. Et donc au lycée, on ne peut pas parler, les lycées français, personne ne m'a jamais parlé. Moi, je voudrais qu'on me parle, quand même. Et j'espère bien qu'on parle un peu plus, mais j'en suis pas sûr, qu'on parle tellement aux erreurs. Et la deuxième chose, c'est que je ne peux pas supporter d'avoir mes jambes sous la table. J'ai toujours mis mes jambes sur la table, ce qui, au lycée, n'était pas bien vu.
Encore moins à la période où vous étiez au lycée. Mais j'aimerais qu'on revienne à la géographie et à votre statut d'écrivain qui s'est visiblement révélé très tôt dans votre vie.
Oui, je m'ennuyais. Alors, je m'ennuyais. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on s'ennuie? On écrit. Alors, j'ai fait deux choses, deux œuvres importantes, si je peux m'amuser. J'ai fait tout seul un petit traité de géographie.
À quel âge?
10 ans. Et puis ensuite, j'ai fait un traité de littérature française en suivant la quatrième, la troisième, si vous voulez, siècle par siècle, comme on faisait, j'étais avant les grands manuels qui ont été célèbres après la guerre. Bon, enfin, tout ça n'était rien du tout, n'était pas important. Et puis j'ai eu une petite passion pour un pays qui était le Tibet, parce qu'il y avait à cette époque-là une femme qui s'appelait Alexandra David-Nel, certains d'entre vous s'en souviennent certainement, qui se déguisait en homme et qui a visité le Tibet interdit à cette époque-là. Et mes parents m'avaient offert pour Noël un des volumes de la Grande Géographie, mais très sérieuse, qui était publié. Et ils m'avaient offert deux volumes, enfin une année un volume, l'autre année l'autre volume, un sur la Méditerranée, qui était écrit essentiellement par un type que j'ai très bien connu après, et l'autre c'était sur l'Asie centrale. Et donc j'avais, si vous voulez, cette chose qui m'est restée, qui était le goût du voyage ou du dépaysement, parce que j'ai passé énormément de temps de ma vie à l'étranger. Et c'est une chose qui est restée toujours présente pour moi. Quand j'étais jeune, une seule chose était relativement claire dans ma tête, ou tout au moins après une petite affaire qui n'avait pas abouti à grand-chose, j'avais vraiment décidé que je ne voudrais pas vivre, je ne voudrais pas me marier, je ne voudrais pas appeler ça comme vous voudrez, avec une femme française. Et c'est en effet ce qui s'est passé.
Mais est-ce que c'est lié, je reviens sur cet épisode de la capitulation qui revient souvent, et dans vos livres et dans la manière dont vous en parlez, sur cette idée d'une espèce de chute de la France, dans l'esprit même du petit enfant que vous étiez ?
Oui. En juin 40, donc, mon père, qui avait 60 ans, grosso modo, avait encore été mobilisé, mais à l'arrière, dans un hôpital. Et donc, l'hôpital était à Orléans. On a passé l'année 39-40 à Orléans. Et puis, nous sommes tous partis avec l'hôpital pour ne pas être faits prisonniers. Et on s'est arrêté dans un village de Buchère, et il y a quelqu'un qui a mis la radio. Je crois que c'était le lendemain du 18 juin que nous n'avons pas entendu. Mais le discours de Pétain pour la capitulation, c'était, je crois, je suis pas absolument sûr, mais je crois que c'était le lendemain. En tout cas, je ne pouvais pas situer parce que je n'avais pas entendu le 18 juin. Et à ce moment-là, je me souviens très bien, il y avait un type de l'hôpital d'âge moyen, disons du genre 40-45 ans, et qui s'est levé, et qui a jeté par terre l'assiette et son verre, et qui a dit « bande de salauds », etc. Et il est parti en cassant tout, furibard. Et ça m'avait beaucoup impressionné, parce que tous les autres étaient « oh là là, faut pas s'exciser comme ça, ben, que, oui, on peut rien faire ». Enfin, c'était pas très brillant, la France de 40. Hein. C'était pas très brillant. Et c'est une chose qui me travaille toujours. D'abord parce que un des grands moments, j'ai deux, trois grands moments vécus dans ma vie, pas plus. Et un grand moment de ma vie, ça a été la libération de Paris, mais parce que j'avais cette honte, si vous voulez, et ce sentiment de désespoir, et un certain ressentiment. D'ailleurs, nous avions essayé avec mon grand copain de Satin, qui est devenu un homme très connu, qui s'appelle Jean-François Lyotard, qui est un philosophe, l'homme de la postmodernité en France. On a essayé de passer en Normandie, mais on n'y arrivait pas. Et on est resté dans un petit local du quartier latin pendant la libération de Paris, en ramassant des malades, ou des blessés plutôt, ou des morts, et en entrant dans des endroits où il y avait encore le café au lait chaud. Des Allemands qui venaient de partir un quart d'heure avant. Mais je dirais que j'ai gardé de la France deux souvenirs profondément négatifs. C'est la capitulation et c'est la guerre d'Algérie. Et puis il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, j'étais un des rares à l'aimer, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en parler, qui a été mai 68, j'étais directeur du département de sociologie à Nanterre, j'avais comme élève avec qui j'allais souvent déjeuner, Cohn-Bendit, et bien d'autres, etc. Mais enfin, j'ai beaucoup aimé, si vous voulez, intellectuellement et vitalement, j'ai beaucoup aimé Nanterre. Moins aimé la Sorbonne, pas du tout aimé l'Odéon, mais Nanterre, oui.
Nanterre, oui.
Et puis, une chose dont j'espère bien, on reparlera d'une manière ou d'une autre, et j'y pense tout le temps. Et j'y pense d'ailleurs en particulier parce que je viens de lire le livre d'une victime, pas tuée mais blessée gravement, de Charlie, qui est le 11 janvier, pas le 7, mais le 11 janvier 2015, la grande manif, la grande, parce que quand même, ces petits Français étaient sortis de chez eux sans que personne ne leur dise rien. Des dizaines de milliers de gens sont sortis. Et ce jour-là, il y avait 5 millions de Français en France qui ont défilé pour défendre les gens de Charlie, dont ils n'avaient jamais lu rien du tout. La plupart d'entre eux. Moi, j'ai jamais lu Charlie. Et j'ai horreur de cette histoire de blasphème. J'aime pas ça du tout. Bon. Mais j'ai dit, ces gens-là ont pensé que défendre la liberté de parole et d'action, c'était au-dessus de tout. Merveilleux Français. On aurait été aux États-Unis, il y aurait eu, je sais pas quoi, du lynchage d'arabes dans les rues, ou je sais pas quoi. Des choses ignobles. J'ai trouvé d'ailleurs que les Français sont, les Parisiens en tout cas, les Parisiens sont restés un peu moins mal réveillés qu'avant, un peu moins désagréables avec les autres, un peu plus, ils sont restés assez profondément humanisés.
Cet événement-là vous a réconcilié.
Ces horribles attentats, le livre que je viens de lire se termine aussi le jour du 13 novembre.
C'est le Lambeau de Philippe Lançon que vous avez lu.
C'est pour vous dire qu'il y a comme ça des instants où la vie personnelle peut tout d'un coup être éclairée par la vie collective, pas le contraire.
Pas le contraire.
Non, je ne crois pas beaucoup à l'intérêt de ma vie et ma vie, je ne la trouve pas intéressante et je la trouve plutôt sinistre. Je la trouve sinistre, oui, parce que, si vous voulez, je suis arrivé à l'âge adulte, au moment de la libération de Paris, j'avais 18 ans. Ensuite, il y a eu le redressement dans tous les pays européens, et ça a été magnifique. Ça s'est, je dirais, bien passé, mais sur le dos des gens, quand même. Enfin, on a reconstruit la France en se foutant un peu des Français, mais quand même, on a reconstruit, c'est déjà quelque chose. C'est mieux que ce qu'on a fait souvent par la suite. Mais j'ai vécu, disons, cette période-là, que Forastier, que j'ai bien connu, a appelé les Trente Glorieuses, à juste titre, avec quelques bémols quand même. Bon, mais enfin, à juste titre. Et puis ensuite, il y a eu, ça a poursuivi ça, disons, jusqu'en mai 68. Et ensuite, je dirais, on a lâché prise. Et après 68, les choses se sont dégradées très vite. Et rappelez-vous, il y a eu des moments de violence et de grandes injustices aussi, enfin du sang parfaitement innocent, etc. Bon, et puis, comment dire, nous avons raté le passage au monde nouveau. On l'a raté. Curieusement, il y a un type dont on dit généralement pas beaucoup de bien, qui est Giscard d'Estaing. Parce que sur le plan personnel, il a raté, enfin, les gens l'aimaient pas parce qu'il avait l'air prétentieux, que sais-je. Mais le type n'est... Ben, rappelez-vous, Simone Veil, c'est sous Giscard. Hein. Et alors moi qui me passionne pour le problème de la condition féminine, quand même, c'est pas... Et il y avait des gens intelligents, il y avait un type qui s'appelait Nora, un économiste. Qui, bon. Enfin, et puis il y a eu une période immense, un demi-siècle presque, enfin j'exagère, mais de Giscard, Mitterrand, Chirac, on laisse passer l'histoire.
On va revenir évidemment sur ça, Alain Touraine, on va revenir période par période sur ce découpage, sur cette période de l'histoire française et sur la vôtre, mais j'ai l'impression... Quand vous dites « on a raté l'histoire », je ne sais pas très bien si vous parlez de la France, de l'objet que vous regardez, ou si vous parlez de vous non. Et de cette sociologie. Vous dites souvent que vous avez été perdu vous-même dans cette période. C'est pour
bien
ça
sûr.
Que vous écrivez autant aujourd'hui.
Bien sûr. À partir du moment où le monde se mondialise. Disons les années 70 et la France s'écroule immédiatement, avec ces grandes attaques que représentent les augmentations brutales du prix du pétrole, etc., on perd la tête, on ne sait plus quoi faire. Et moi, je ne sais plus quoi faire. Et je commence à essayer de me consacrer à élaborer une méthode sociologique. Bon, et ensuite, je fous le camp en Amérique latine pour assez longtemps. Et ensuite, je suis perdu. Et ce qui m'a forcé à ne pas abandonner tout, c'était deux fois dans ma vie des aventures. C'est ça le seul lien réel entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle et intellectuelle. Deux fois, j'ai eu un choc épouvantable qui était la mort de la femme avec qui j'ai vécu l'une pendant 33 ans, l'autre pendant 16 ans. Bon, ça s'appelle cancer dans les deux cas, et c'est assez banal, mais surtout pour ma femme au sens épouse, mère de mes enfants, comme on dit, ça a duré très longtemps, et donc pendant 6 ans aussi. Si vous voyez, ma vie, ça a été... Je ne supportais pas cette France qui faisait n'importe quoi, qui comprenait rien à rien. Et donc, je vous dis, j'ai passé 6 ans au moins, 7 ans en réalité, à mettre au point une méthode d'études sociologiques, où j'ai passé beaucoup trop de temps. Ensuite, j'ai passé 7 ou 8 ans à me consacrer à l'Amérique latine en écrivant finalement 2, 3, 4 petits livres et un énorme livre. Et ensuite, j'ai passé 6 ans à m'occuper de ma femme qui était en train de mourir. Ça fait beaucoup dans une vie. Et petit à petit, et avec la plus grande difficulté, depuis un livre qui s'appelait justement « Critique de la modernité »,
1992.
J'ai commencé à essayer de comprendre dans quel monde on vivait. Et j'ai pas bien réussi. Ce livre est très intéressant pour moi. Ensuite, il y a eu des livres, oui, certains bons, d'autres moins bons, mais enfin, tout ça, c'était pas brillant. Jusqu'à ce que, tac, 15 ans après, une femme avec qui j'ai passé donc cette deuxième partie, mais j'avais près de 70 ans quand même, a été atteinte par un cancer et a décidé finalement d'en terminer avec sa vie. Et c'est à ce moment-là, voyez-vous, ayant perdu toute ma vie, elle vivait à Milan, elle était venue vivre en France, comme ma première femme qui était chilienne était vue, avait quitté Santiago du Chili pour venir vivre en France. Bon, je suis revenu de Milan, où nous avions passé une soirée autour de son cercueil, des Français et des Italiens, surtout des Italiens évidemment. Je suis revenu en France, j'ai dit maintenant c'est l'extrême fin de ta vie. J'étais vraiment du genre de 85 ans, hein. Donc, bon, ou tu te laisses crever, ou tu travailles comme un fou. Bon, la réponse était évidente. Il fallait travailler comme un fou, ce que j'ai fait.
Vous avez travaillé comme un fou, Alain Touraine. Et on va parler, justement, on va revenir sur les éléments fondateurs de votre sociologie. Et sur cette société du travail, on en parle demain. Merci à vous, Alain Touraine.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Zoé Sfez avec Alain Touraine. À voix nue, réalisation Véronique Lamandour, prise de son François Rivalan, Romain Luquiens, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.